Safadjet. Il faut vous rendre soit sur le Facebook, soit sur le Twitter de la radio. Et des passes soit pour le vendredi ou le samedi, ça, il faut aller sur la rubrique jeu sur le site de la radio, www.fadjet.net. Vous avez jusqu'à lundi. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir sur Fadjet.
Merci.
Merci. Merci.
Sous toutes les cultures, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On va vous parler de Grave ton squat avec l'atelier 33. Et en plus, en exclu, on va vous dire où ça va se passer. Nancy's Burning sera également avec nous en studio. Je laisse la place à Romain, à qui j'ai encore piqué 30 secondes cette semaine. Désolé Romain. Archiphonique tout de suite sur Fadjet. On vous met toutes les infos des invités du jour sur le Facebook de l'émission. Ciao, ciao. Très, très bonne soirée à l'écoute de Fadjet, bien sûr.
Merci Aurélie, bonsoir à toutes et à tous. Il est tout pile 19h, enfin presque, vous êtes bien à l'écoute de Fadjet, c'est Romain Micro, on est parti pour 30 minutes dans votre émission archiphonique. Archiphonique, c'est la seule émission culturelle consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Ce soir, on salue le retour de Camille qui nous a ramené un soleil radieux d'Italie. Salut Camille.
Salut.
Alors, on va parler de quoi ce soir ?
Eh bien, d'art contemporain, d'art urbain et de figures de style.
Et de figures de style. Voilà. On en parle donc juste après. Dans la seconde partie de l'émission, nous recevrons dans nos studios l'architecte, philosophe et chercheur Hervé Gaff, également professeur à l'école d'architecture de Nancy. Hervé Gaff nous présentera l'architecte dans tous ses termes. En bref, la plus-value que sa réflexion apporte à l'architecture et au projet. On y parlera architecture, bien sûr, mais aussi de disciplines auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle des architectes. La philosophie, par exemple, ou encore l'anthropologie, la sociologie. Tout autant de connaissances dont l'architecte se sert pour mener à bien notre avenir. Un rendez-vous riche en enseignements à retrouver dans un instant. Archiphonique, c'est aussi sur Facebook, www.facebook.com/archiphonique, A-R-C-H-I-P-H-O-N-I-K, où vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'émission et des prochaines à venir. Archiphonique, c'est votre émission portée sur l'architecture, et ce soir plus particulièrement sur l'architecte. Ça commence maintenant, restez bien à l'écoute.
Oui. Je vous ramène du soleil d'Italie, mais c'était aussi l'ouverture de la Biennale de l'art contemporain à Venise, mais que j'ai adroitement évité, je suis parti la veille. Cette saison, c'est l'art contemporain, c'est également à New York la grande foire des galeristes et artistes qui s'appelle Frieze, un magnifique bâtiment sur les rives de Hudson sûrement à New York. Mais partout fleurissent des petits festivals, des expositions, et cette année 2015 a marqué d'une pierre blanche au niveau institutionnel. L'art urbain rentre dans les institutions. Alors à Nancy, c'est des événements, on va en parler la semaine prochaine, j'ai cru entendre, de Grave ton squat par exemple, une petite association qui s'empare d'un lieu avant démolition pour lui permettre à différents artistes de s'y exprimer. Organisé par la ville de Nancy, il y a aussi la Big Jam. On reprend les vieux titres. Alors ça sera dans le site Alstom, où pareil, de vieux graffeurs nancéens vont venir s'emparer des 3500 mètres carrés de la nef que l'on connaît, qui est déjà ouverte différentes actions culturelles de temps en temps. Par contre, voilà, la question en fait se pose, qu'est-ce que c'est que cette institutionnalisation ?
Oh là là, pas facile à dire.
Ouais, je suis encore un petit peu en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette institutionnalisation de cet art qui semblait plutôt sauvage ? Alors on l'a vu tout doucement glisser vers les institutions avec de grands artistes qui travaillent sur l'espace urbain. Le plus simple et le plus évident est Daniel Buren, hein, institutionnalisé comme c'est pas permis, hein, il rafle un petit peu beaucoup de 1%, ce qui fait qu'il bascule tout doucement d'ailleurs vers... qu'il a quitté cette sauvagerie qu'il a connue au début, hein, les premières lignes étaient vraiment des œuvres de revendication, maintenant c'est une signature. Voilà, j'ai du coup, en me posant cette question, mais l'art urbain est-il encore sauvage ? Je suis tombé sur un petit article de Anne Gonon, qui réfléchit à l'art sur l'espace public. Je vais vous lire une vingtaine de lignes qui permettent d'éclairer un petit peu à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue dans les murs et sur les murs du ministère de la Culture à Paris. Donc une exposition qui avait forcément pour but de mettre en avant l'art urbain. Et cette exposition s'appelle Oxymore, un titre qu'il va falloir expliquer et qui paraît drôlement bien senti. Donc ce titre, éloquent et astucieux, de l'exposition Oxymore, dit combien cette exposition porte en son sein cette attraction contraire entre reconnaissance, institutionnalisation et spontanéité, liberté qui caractérise aujourd'hui l'art urbain. Plusieurs œuvres produites, comme les analyses pertinentes et critiques proposées par Élise Erkovitch et David Demougeot, pointent les ambiguïtés et écueils, les exposent au grand jour et en font un sujet même de travail. Cette tension, c'est non seulement n'est non seulement pas nié, mais constitué un point d'orgue un point d'orgue d'Oxymore qui prend dès lors des allures de cheval de Troie. L'enjeu est de taille. Comment l'art urbain peut-il entrer au ministère, temple de l'institutionnalisation via les dispositifs, la catégorisation, la réglementation, l'évaluation, sans perdre son âme? Pourrait-on se prendre à rêver que l'impertinence de certains artistes et la liberté farouche de leurs modalités d'action parviennent à faire bouger les lignes au sein de l'institution? Plus alors qu'un cheval de Troie, aurait-on fait entrer les loups dans la bergerie, où la sensibilisation à l'art urbain reste largement à faire, tant ce champ artistique reste pour le moment hors du radar ministériel? Certes, comme l'écrivent Élise et David Demougeot, l'art urbain au ministère de la Culture a donc aujourd'hui d'un petit quelque chose d'ubuesque, un soupçon de contradiction, ce qui n'a sans doute jamais fait peur à l'art, mais cet oxymoron, cette figure de style du coup, dont le ministère a accouché, vient nourrir la réflexion sur l'intégration aux politiques publiques de certaines formes artistiques rebelles. Car aussi rétifs qu'ils soient, ces artistes ont bel et bien droit à des moyens et des espaces de production, ce qui ne les empêchera nullement de continuer d'intervenir de façon impromptue dans nos rues. Si l'essai Oxymore est transformé au-delà du temps de l'exposition, elle sera peut-être la preuve, apportée par une instance aussi légitimante que le ministère de la Culture et de la Communication, qu'il est possible de développer une politique publique hospitalière à l'écoute des enjeux et des spécificités d'une forme artistique, et ce, sans automatiquement la contraindre, l'enfermer dans un périmètre et une labellisation. Autant de dommages collatéraux des politiques culturelles dont on connaît désormais le potentiel pouvoir sclérosant et paralysant. Je termine avec ces quelques lignes. Les meilleurs garde-fous à ce processus institutionnalisant en marche restent sans conteste les artistes eux-mêmes, et ils veillent au grain, comme en attestent les deux œuvres ironiques de Jean Faucheur, qui, parodiant les affiches commerciales, annonce sur les vitrines du ministère des stockages massifs sur tout le magasin, des prix fous, et tout doit disparaître. Ou encore cette phrase nichée au cœur de l'œuvre à quatre mains de O'Clock, Leck, Sowat et Jacques Villeglay, rue des Bons Enfants, donc sur le ministère. Quand on fréquente des voyous, on finit toujours par se salir. Voilà, le ministère aura été prévenu.
Merci Camille, on en prend note donc. Un article qu'on peut retrouver sur internet peut-être ?
Bien sûr, alors sur la plateforme Culture Collectivité de l'Observatoire des Politiques Culturelles.
On le mettra sur Facebook.
Attention, c'est pointu.
Merci Camille. Hervé Gaffe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs ?
Ou simplement architecte de formation, j'ai pratiqué pendant quelques temps, et aujourd'hui, donc, j'enseigne la philosophie à l'école d'architecture de Nancy.
Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler dans notre émission de la réflexion de l'architecte. On peut commencer déjà par parler des questions qu'il est amené à se poser.
Alors, qu'est-ce que mobilise la pensée de l'architecte ? C'est de cette question dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait aussi la spécificité de cette pensée-là ? Alors, la représentation commune que l'on en a, c'est de considérer que l'architecte dessine des murs, des poteaux, des fondations, des toitures, etc., pour construire des bâtiments dans lesquels les gens vont habiter. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être essayer de regarder qu'est-ce que mobilise cette représentation-là. Peut-être à travers de trois types de réflexions qui mobilisent la pensée de l'architecte. Premier type de réflexion concerne le choix des éléments qui constituent une maison ou un bâtiment public et les relations qu'entretiennent ces éléments entre eux. Quand on construit, donc on s'apprête à construire une maison, on s'intéresse aux éléments qu'on va mettre en œuvre, aux relations qu'ils entretiennent, dans des buts de solidité, mais aussi dans des buts d'unité, de cohésion. Il s'agit de faire un tout. Deuxième type de réflexion que peut avoir l'architecte, c'est c'est celle de penser ce projet particulier toujours pour un lieu particulier. C'est-à-dire qu'on construit dans un site qui est rural, urbain, on considère son accès, son voisinage, et on le construit toujours à une époque particulière, dans une situation donnée. Ça veut dire que derrière, il y a des enjeux qui sont sociétaux, qui sont environnementaux, et donc ça regarde le contexte du bâtiment, le contexte dans lequel il va s'insérer. Tout en réfléchissant à ces différents aspects, troisième type de réflexion, le propre de l'architecte est de s'intéresser surtout à ce qu'il ne dessine pas, et ça peut paraître un petit peu perturbant, puisque quelqu'un qui dont le travail ce serait de s'occuper de ce qu'il ne fait pas, c'est un petit peu curieux, dans le sens où ce qui l'intéresse principalement, c'est savoir ce qui va se jouer entre les éléments qu'il dessine, c'est-à-dire la vie future des habitants, les usages qui vont prendre place dans le futur bâtiment.
Les articulations, en fait.
Les articulations et simplement ce qu'il y a en creux, qu'est-ce qu'on va faire dedans, comment on va se comporter, comment on va agir, comment on va se tenir les uns vis-à-vis des autres, quelles activités on va mener. Alors ces trois types de réflexions dont je viens de parler, elles engagent plusieurs domaines de la pensée humaine, on va voir lesquels, et on a là trois types encore de questions, on multiplie les questions, c'est-à-dire quoi faire, l'architecte doit savoir ce qu'il va faire, comment faire et pourquoi faire. Alors, ça veut dire que l'architecte s'interroge sur ce qu'il dessine, c'est-à-dire le quoi, le bâtiment, ou en creux, ce qui va s'y passer plus tard, sur la manière de le faire, c'est-à-dire comment je vais construire ce bâtiment, et sur ce pourquoi il le fait, c'est-à-dire à destination de qui, et pourquoi, pour quelle activité. Parce qu'il a pleinement conscience qu'il conçoit toujours un bâtiment pour un client particulier, ayant des besoins particuliers, dans un lieu particulier, et parce qu'il sait que ce bâtiment contribuera à déterminer la vie de beaucoup d'entre nous, l'architecte doit avoir des connaissances dans un grand nombre de disciplines. Et là, on a une tradition qui est ancestrale, on pourrait dire, puisque c'est l'humanisme qui caractérise l'architecte. À l'origine de la discipline, on a Vitruve, Alberti à la Renaissance. Et chez ces auteurs, l'architecte est quelqu'un qui est à cheval, on pourrait dire, sur de nombreuses disciplines.
Alors, ces disciplines, on peut en citer quelques-unes tout de suite. Déjà, la philosophie, vous en avez fait votre spécialité.
La philosophie, bien sûr. Vous avez parlé aussi d'anthropologie. On aurait la sociologie aussi. On aurait les sciences et les techniques. Et on pourrait encore en mentionner d'autres qui paraissent peut-être moins évidentes au premier abord. Mais on aurait, par exemple, les arts. Ça peut se comprendre. La médecine, peut-être un peu moins. Le droit, encore un peu moins. La biologie, peut-être un peu moins. La géographie, ça se comprend. Et le commerce, par exemple. Donc, dans toutes ces disciplines, l'architecte doit avoir des connaissances, mais ce n'est pas un expert dans chacune d'entre elles. Alors, on va expliquer un petit peu pourquoi il est à cheval entre ces disciplines. En parlant peut-être de chacune de ces disciplines, donc les sciences et les techniques, je vais formuler un certain nombre de questions que se pose l'architecte autour de ces disciplines. D'abord, comment se comporte la matière pour supporter des charges? Ça, bien sûr, c'est de premier intérêt. Comment les matériaux vieillissent? Comment utiliser un matériau tel que l'acier dans la construction? Quel est le bilan énergétique lié à l'emploi de tel ou tel type de matériaux? Tout ça, c'est des questions qui sont liées, bien sûr, aux techniques et à la science. On a aussi une discipline dont j'ai pas parlé encore, c'est la théorie architecturale. Les architectes ont eux aussi leur propre discipline qui est la théorie, c'est-à-dire la pensée de l'architecture. Alors voici les questions qu'ils se posent, quelques-unes. Quel type d'organisation spatiale pour quels usages? Quel rapport instaurer entre les espaces intérieurs et extérieurs, par exemple d'un bâtiment? Comment créer une harmonie au sein d'un même bâtiment? Quelle forme doit avoir une mairie, une assemblée, un casino? Comment construire dans une ville en valorisant les bâtiments existants, puisque la ville c'est un patrimoine commun? Quels matériaux employer pour créer tel type d'ambiance intérieure? Voilà les questions que peut se poser l'architecte dans le cadre de la théorie architecturale.
Ce qui fait son trait distinctif, en fait, c'est sa capacité à jumeler toutes ces questions.
Oui, je voulais en parler un petit peu par la suite. C'est la capacité à opérer une synthèse entre toutes ces informations assez diverses pour essayer de penser une unité, un tout, qui soit à la fois adapté au contexte, à l'environnement, à la société et bien sûr à celui qui commande le bâtiment, que ce soit un client particulier ou une institution.
Alors d'autres questionnements de disciplines un peu plus précises, enfin en tout cas pour lesquelles On s'y attendrait pas.
Ouais, d'accord. Alors peut-être la sociologie et puis l'anthropologie, même si on a déjà dit que l'architecte construisait pour les hommes. Ce serait quels sont les us et coutumes d'une société donnée. Ça, c'est capital, bien sûr, parce que dans le bâtiment, on va se comporter d'une certaine manière. Il y a des conventions sociales, il y a des habitudes. En quoi l'architecture ou certains aménagements urbains peuvent engager des préoccupations morales ou politiques. Bien sûr, quand on dessine la ville, ça a des implications sur la société. L'architecture est-elle capable de nous émouvoir et comment cela se produit-il? Alors ça, j'ai un peu... C'était plutôt une interrogation de la philosophie, mais pourquoi pas. Je retourne à la sociologie, à l'anthropologie. Comment penser l'appropriation des espaces publics par les citoyens? Quels sont les liens entre frontières physiques et frontières sociales dans notre environnement de vie? Voilà quelques-unes des questions que peuvent se poser à la fois le sociologue et l'anthropologue. En philosophie maintenant, puisque ça paraît peut-être très à distance, on est dans les sphères éthérées, alors que l'architecture c'est la pierre, c'est la matière, c'est la gravité. Qu'est-ce que la norme, la normalité, concernant par exemple des lieux de vie, des usages ou des comportements? En quoi l'architecture ou certains aménagements urbains peuvent engager des préoccupations morales ou politiques? Ça j'en ai parlé. L'architecture est-elle capable de nous émouvoir et comment cela se produit-il? Du point de vue des sensations que l'on peut ressentir dans les bâtiments, des émotions, des sentiments? Qu'est-ce que faire l'expérience d'un bâtiment? Ça veut dire quoi exactement? Si on considère que l'architecture est un art, notamment. Comment penser nos lieux de vie dans la période de crise économique et énergétique que nous vivons actuellement? Et là, c'est des questions de société et plus largement, on pourrait dire, d'humanité. Voilà, donc, quelques-unes des disciplines et des questions que se pose l'architecte ou que manipule l'architecte.
Sur tous ces questionnements, il faut le souligner, il existe quand même une littérature assez abondante.
Oui, dans tous les domaines, bien sûr, beaucoup de penseurs dans des domaines assez divers. Les architectes, bien sûr, mais on l'a vu, les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les techniciens, les scientifiques s'intéressent aussi à la question de l'espace et des hommes de multiples manières. Alors, si on veut revenir sur le caractère propre de la pensée de l'architecte, ce serait une capacité à gérer une complexité de problèmes et d'enjeux et à offrir une réponse unitaire qui puisse intégrer chaque facteur que peut porter chacun de ces enjeux.
Alors, l'architecte s'intéresse à d'autres domaines, on en parlera tout à l'heure, l'urbanisme et le paysage. On va marquer une courte page de publicité. C'est l'habitude d'entendre les émissions radio avec des pubs. Nous, on n'a pas de pub, donc on va marquer une courte page de musique. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. C'est Coldplay avec Rainy Day. Et puis, on se retrouve donc juste après dans Archifonique. À tout de suite.
Yeah, the love goes to you. The more you win.
Coldplay, Rainy Day. Vous êtes sur Fadjet à l'écoute de votre émission archiphonique et on est avec le philosophe architecte Hervé Gaffe qui nous parlait juste avant la pause de la réflexion de l'architecte. Et on revient pour cette seconde partie d'émission pour parler de ce en quoi participe l'architecte dans la création de notre société.
Alors bien sûr, on a vu qu'il était question de la société tout entière. Quand on fait un projet, c'est pas simplement le projet pour quelqu'un, pour un individu, mais c'est aussi un projet de société puisqu'on mobilise notre futur cadre de vie, c'est-à-dire la manière dont ça va conditionner nos relations avec les autres. En conséquence, l'architecture a ceci peut-être de particulier, c'est que ça n'est pas un produit de consommation comme les autres. On a une loi qui date de 77, la loi d'architecture, qui considère cette discipline comme étant d'utilité publique. Ça veut dire qu'elle concerne bien sûr la société tout entière, le patrimoine et la culture. Alors bien souvent, il y a une tendance un petit peu générale qui, quand on parle d'architecture, tend à ramener la question de la création architecturale à une question purement esthétique. On a vu en introduction que c'était une erreur puisque c'est l'architecture peut bien plus que ça et fait habituellement bien plus que ça. Alors, ça veut dire qu'en faisant appel à un architecte, je n'espère pas seulement habiter un espace qui soit beau, qui me plaise, mais un espace harmonieux qui corresponde à mon mode de vie et dans lequel je me sens bien. C'est une question corporelle, mais c'est aussi une question spirituelle, si on veut. C'est-à-dire, si je suis en harmonie avec mon environnement, bien sûr, je me sentirai mieux corporellement, mais aussi peut-être un peu plus libéré du point de vue de l'esprit. On dit souvent aussi qu'il faut plus d'argent pour avoir de plus beaux espaces de vie et plus de surface pour mieux vivre. Alors ça, c'est bien sûr, c'est une erreur de penser ça, puisque plus ne signifie pas mieux, et il est possible avec moins d'argent et moins de surface de mieux vivre, et c'est tout l'intérêt de faire appel à un architecte.
Less is more.
Voilà, d'une certaine manière. Alors, on a vu que l'architecture mobilisait des considérations qui dépassent de beaucoup la seule dimension esthétique des bâtiments. On pourrait ajouter encore, parmi les dimensions morales et éthiques qui sont liées à l'architecture, la durabilité des constructions. On construit bien sûr pour le futur, pas simplement pour nous. L'impact sur l'environnement, il est question bien sûr de plus en plus de consommation énergétique, d'utilisation des ressources. Ça a aussi un impact social, parce que quand on produit des matériaux, des personnes le font. Comment elles sont employées, comment elles sont rémunérées. Ça a aussi des effets, comme on l'a vu, sur les relations sociales après la construction du bâtiment. Ça a un impact sur le vivre ensemble, puisque dans un bâtiment public, par exemple, on inclut des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et ça, c'est déterminant par rapport au vivre ensemble. Alors, peut-être un trait distinctif de l'architecte, ce serait, du bon architecte si on veut, ce serait sa capacité à remettre en question nos habitudes, nos conventions ou nos usages pour proposer de nouveaux cadres de vie. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos habitations n'évolueraient pas alors que nos sociétés évoluent très rapidement tout comme nos usages. Bien souvent on raisonne en termes de recettes, c'est-à-dire qu'on reproduit des choses que l'on sait faire, que l'on a vu, que l'on connaît, alors que nous-mêmes on est en constante évolution et on mériterait donc des espaces qui soient adaptés à l'évolution simplement de notre société et de nous-mêmes. Alors, bien souvent dans cette optique on dit une maison c'est, et on sait très bien ensuite ce qu'on va mettre derrière. Non, en fait, la question n'est pas celle-ci, ou la réponse n'est pas celle-ci, ce serait une maison, cela pourrait être. Et c'est-à-dire, ça pourrait être tout autre chose que ce à quoi on s'entend habituellement. L'enjeu est le suivant, si on reproduisait toujours les mêmes habitations et les mêmes manières d'habiter, nous n'aurions peu de choix en cherchant une maison ou un appartement. Or, puisque nous vivons tous un peu différemment, nous devrions pouvoir choisir ce qui conviendrait le mieux à notre manière de vivre. C'est-à-dire que si on fait toujours que ce que l'on sait faire, on risque d'uniformiser le parc de logements, le parc aussi de bâtiments publics, et de ne plus avoir d'espace adapté pour nos modes de vie, qui sont à chaque fois des modes un petit peu particuliers. On pourrait prendre un petit exemple pour terminer. Par exemple, si je m'achetais une paire de chaussures, je peux soit faire le choix de m'acheter une paire de chaussures sur mesure, quoique ça ne se fasse plus beaucoup, ou alors d'acheter une paire de chaussures à industriel. Alors si je ne peux pas me faire faire une paire de chaussures sur mesure, qui correspondrait aux dimensions de mon pied, à ma manière de marcher, et si je suis contraint de choisir la chaussure la plus adaptée, c'est-à-dire la moins pire, il sera préférable d'avoir un choix qui soit le plus large possible. Sinon, bah, je risque d'avoir mal au pied ou de déformer la chaussure. Donc voilà, si on voulait conclure sur ces belles paroles, l'architecture serait finalement une question de pieds bien chaussés.
Alors toutes ces questions, finalement, est-ce que ça justifie le fait qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire de la recherche en architecture ?
Je pense que ça contribue grandement à une réflexion sur quels sont les besoins de la société, sur l'évolution aussi des formes d'habiter. Et tout ça, bien sûr, peut amener les architectes, contribuer en tout cas à développer une pensée qui soit un peu plus féconde et toujours plus riche pour essayer de répondre aux enjeux simplement qui sont nos enjeux sociétaux.
Votre propre avis, l'architecte, est-il assez présent aujourd'hui dans notre société ?
Il est présent en marge, il y a beaucoup de concurrence par rapport à d'autres professions et souvent on considère, comme j'ai dit, que l'architecte c'est celui qui fait des belles choses, il est sympathique, souvent on le considère comme ça, c'est un artiste. Non, l'architecte porte des enjeux qui sont bien plus importants et que les autres corps de métier qui font de l'architecture ne savent pas traiter.
Merci beaucoup Hervé Gaff d'avoir été avec nous pour parler donc de la réflexion de l'architecte. Camille, tu vas nous emmener où ce soir ?
Eh bien, ça sera en Moselle, puisque c'est les derniers jours du Festival Passage, qui reçoit d'ailleurs demain Patrick Bouchain, architecte, qui vient venir parler lors d'un débat de l'éloge de la mobilité sur ces structures qui sont souvent liées aux lieux de spectacle, donc chapiteaux, tentes, structures, construction hybride.
Patrick Bouchain, qu'on avait eu en interview dans notre émission en début d'année.
Ah bah oui, bien sûr, enregistré, je me souviens. Donc voilà, Patrick Bouchain, et puis bien sûr, une collection de chapiteaux impossibles et terribles et fantastiques donc sur la place de la République à Metz, et puis quelques pièces fabuleuses, des pièces qui peuvent recevoir 6 personnes jusqu'à 200, 300 personnes. Donc il est encore temps d'acheter quelques places et de vous rendre à Metz pour voir ce festival fantastique, qui est le festival Passage, qui est dédié à Cuba cette année.
Merci beaucoup, Camille, c'est d'actualité. On te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Le podcast de votre émission du jour sera disponible dans quelques instants sur le site officiel de la radio, Fadjet.net, rubrique tous les podcasts, téléchargeables et plus simplement en écoute libre. Pendant une semaine, la semaine prochaine d'ailleurs, nous recevrons dans notre émission l'architecte nancéen Nicolas Depoutour, un habitué des lieux. Il nous présentera sa toute dernière chronique de la saison 2 d'Archiphonique, chronique qui porte le nom de Rendez-vous avec K, et pour l'occasion, il reviendra sur l'année écoulée et fera un bilan des bâtiments que nous avons fait découvrir durant toute cette saison. On se retrouve la semaine prochaine donc, d'ici là, restez à l'écoute de Fadjet. C'est le menu étudiant tout de suite avec lui et toute son équipe. Pour Archiphonique, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mêmes ondes. Bonne soirée à tous, salut.